Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique sur Radio Territoria.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver pour un jour et un horaire un peu particulier aujourd'hui puisqu'on a l'habitude de se retrouver le mardi à 11h. Et aujourd'hui, eh bien, on va se retrouver un jeudi à 15h30 pour évoquer un sujet qu'on peut penser qui n'est pas encore tout à fait d'actualité puisqu'on se fait un petit peu arroser depuis ces dernières semaines, notamment à Paris. Et pourtant, c'est un sujet qui touche déjà certaines zones, c'est celui de la sécheresse en ville. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, je suis en compagnie de quelqu'un qui nous rejoint pour la première fois et qui va gérer toutes vos questions. C'est Stéphane Olivier, bonjour.
Bonjour Johanna,
vous êtes chargée d'animation territoriale à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Et vous êtes en compagnie aujourd'hui d'Amélie Couantic. Bonjour Amélie.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes vous sous-directrice en charge de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques à la direction de l'eau et de la biodiversité, avec pour la première fois dans cette émission la présentation d'un sujet tourné vers la gestion de l'eau. Voilà, c'est l'époque, avec l'été qui arrive, il va falloir informer pas mal sur ce sujet. On va en parler puisque effectivement on va parler de la gestion des épisodes de sécheresse en ville, c'est notre thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors vous le savez, on ne vous l'apprend pas, depuis plusieurs années, la France connaît des épisodes de sécheresse. Et avec le dérèglement climatique, ces phénomènes sont voués à s'intensifier et demandent des adaptations dans notre consommation de l'eau, mais également dans sa gestion au quotidien, en tendant vers des systèmes résilients. En effet, au plus fort de ces crises répétées, ce sont plus de 80 départements qui ont pris sur une partie de leur territoire au moins des mesures de restriction d'eau, touchant l'ensemble des acteurs de l'eau. Alors malgré la mise en place de ces mesures, certaines communes connaissent des pénuries d'eau potable. Une gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre de satisfaire en priorité l'approvisionnement en eau potable, d'où le problème. Face à ces enjeux, nous allons voir ensemble quels leviers d'action sont mobilisables pour améliorer la gestion de ces crises et la résilience des territoires. Alors avant toute chose, Amélie, commençons par comprendre quelles sont les causes de la sécheresse.
Écoutez, d'abord, il faut comprendre que la France bénéficie d'une situation plutôt favorable. On a un climat qui nous permet de bénéficier d'une pluviométrie qui est importante. Quasiment 500 milliards de mètres cubes d'eau tombent sur la France durant l'année. Malheureusement, une grande part, plus de 2/3 de cette eau s'évapore. Et le reste va alimenter les sols, les hydrosystèmes, les cours d'eau, les nappes, mais aussi servir à nos usages. Et donc, ce qui crée la sécheresse, c'est le déséquilibre avec d'un côté le manque de pluie et de l'autre des prélèvements en eau trop excessifs qui vont générer des difficultés. Alors le manque de pluie, ça peut être un manque de pluie tout au long de l'année, un manque de pluie en hiver avec des recharges de nappes souterraines qui vont être insuffisantes. Les nappes vont se vidanger dès le mois d'avril avec le départ de la végétation et les nappes ne pourront plus soutenir les cours d'eau durant l'été. On a aussi un manque de pluie qui apparaît dès le mois de mai, de juin, et qui s'intensifie durant l'été avec des températures élevées qui créent de l'évaporation et l'eau n'est plus disponible. Donc c'est tout au long de l'année qu'il faut suivre la pluie et les problèmes de sécheresse parfois s'expliquent par des manques d'eau en hiver.
C'est pas seulement il arrête de pleuvoir en juin et en juillet et donc c'est la sécheresse.
C'est pas seulement ça et heureusement parce qu'on a quand même des territoires où il fait toujours beau en juin et en juillet, les années plutôt normales. Donc c'est bien un différentiel par rapport à des normes. Parfois, c'est la recharge hivernale qui fait défaut. Parfois, c'est l'intensification de températures élevées très tôt au printemps qui va générer une entrée précoce en sécheresse estivale. Et après, il y a la question des prélèvements. Qui est associé, parce qu'on prélève en France des quantités d'eau importantes pour satisfaire nos usages. Alors il y a des volumes d'eau qu'on va remettre au milieu, par exemple tout ce qui est utilisé par EDF, par Voies Navigables de France pour les canaux, le refroidissement des centrales nucléaires. Et puis il y a l'eau qu'on consomme. Alors c'est 6 milliards d'eau qui sont utilisés pour l'alimentation en eau potable des Français, qui consomment à peu près 120 mètres cubes par an pour un foyer. Et là encore, on a des consommations qui sont variables dans le temps et l'espace. Et on consomme plus d'eau l'été, au moment des vacances, sur les zones littorales. Pareil, on consomme plus d'eau en montagne l'hiver, pendant qu'on est au ski. Après, on a l'usage agricole à 2,8 milliards de mètres cubes, qui, lui, ne représente que 10% sur l'année. Mais attention, en fait, il est extrêmement concentré sur la période mai, juin, juillet, août, au moment des cultures. Et donc là, on peut avoir vraiment une consommation agricole qui est excessivement importante par rapport au territoire. Puis ensuite, on a des besoins industriels un peu plus lissés sur l'année. Et donc, la sécheresse, c'est finalement le croisement entre ces excès de consommation d'un côté et ce manque d'eau lié au normal climatique de l'autre.
Alors, il y a tous ces facteurs que vous venez de nous citer. Il y a également les effets du dérèglement climatique. On en parlait en introduction. Quelles évolutions avez-vous pu constater concernant ces phénomènes de sécheresse depuis ces dernières années ?
Alors d'abord, par rapport au changement climatique, il faut bien se dire que l'eau sera un marqueur essentiel du changement climatique. C'est par l'eau qu'on observe en premier que notre climat évolue. Et dans tous les scénarios proposés par le GIEC, on a bien une augmentation des phénomènes extrêmes liés à l'eau. Plus d'inondations, plus de sécheresse. Pour le ministère de la Transition écologique, c'est vraiment poser la question de l'effet du changement climatique sur la ressource en eau et à financer un gros programme scientifique qui s'appelle Explore 2070 pour essayer de voir ce qui nous attend dans le futur. En synthèse, la situation nécessite vraiment notre attention parce qu'on projette des diminutions des débits de cours d'eau de l'ordre de 10 à 30% dans le nord de la France, donc c'est-à-dire par exemple la Seine, qui a déjà un débit qui n'est pas très rapide l'été. Et puis dans le sud de la France, on peut envisager des baisses de débit jusqu'à 50%. Donc sur là encore, des cours d'eau qui sont en tension déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, cette question de l'impact du changement climatique sur notre accès à l'eau est vraiment un phénomène dont on a conscience, sur lequel les scientifiques travaillent et sur lequel nos concitoyens aussi sont sensibilisés, puisque dans les derniers sondages d'opinion, 9 consommateurs d'eau sur 10 pensent que l'accès à l'eau sera plus compliqué dans les années à venir.
On le sait, l'eau va devenir de plus en plus rare. Et c'est pour ça que connaître finalement assez bien ce milieu et son milieu doit être primordial pour mettre en place des actions face à ces épisodes de sécheresse. Comment est-ce qu'on suit la ressource en eau ?
Alors, on a la chance de bénéficier en France d'un réseau de surveillance qui est extrêmement développé, alors qui fait l'objet de bulletins de situation hydrologique qui sont publiés tous les mois par le ministère sur le portail national de la politique de l'eau en France qui s'appelle eaufrance.fr et qui va amener à la connaissance de tous la synthèse de nos différents réseaux. Alors on a d'abord la mesure des débits des cours d'eau qui est réalisée en continu par les services de l'État. Ça nous permet de suivre les risques d'inondations, mais aussi les phénomènes d'étiage. On a ensuite le BRGM qui suit à peu près 2000 points de contrôle sur l'ensemble des nappes souterraines qui nous permet d'identifier le niveau de la nappe et de voir lorsque les nappes commencent à baisser. Et puis, on a développé depuis ces dernières années des objets un peu plus innovant avec par exemple l'Office français de la biodiversité qui lui va suivre les ASEC. Alors l'assèchement des cours d'eau, c'est quelque chose de naturel en milieu méditerranéen, l'écoulement s'arrête l'été, mais là on suit à peu près 3200 petits cours d'eau et on regarde à quelle date ils s'assèchent. Et dès qu'on observe des ASEC précoces, comme on a eu par exemple au mois de mai, ce mois de mai cette année était particulièrement sec, alors juin amener de la pluie, mais mai était sec, et on observait vraiment en tête de bassin versant les premiers ASEC, et ça, c'est les signes précoces de la sécheresse. Et après, on a bien évidemment Météo France qui suit les indicateurs météo, la sécheresse des sols. Donc, c'est l'ensemble de ces données qui nous permettent de caractériser la ressource en temps réel, donc situation à l'instant T. Ensuite, compte tenu de cette masse d'informations, bien évidemment, les scientifiques ont essayé d'avoir des modèles de prévision. Et c'est ce qu'on a développé, notamment avec le BRGM, le CNRS, les équipes de Météo France, pour essayer de faire des modélisations de l'état des ressources en eau. Et ce qui nous a permis, depuis l'an dernier, donc pour 2 années consécutives, de publier au mois de mai une carte prévisionnelle des territoires où on pense qu'il y aura des phénomènes de sécheresse à horizon de la fin de l'été, donc début septembre. Donc on est au début de ces modèles prédictifs. Ça nous semble extrêmement important d'en bénéficier pour pouvoir alerter les territoires et qu'ils puissent à l'amont prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est tout ce qui est mis en place par l'État au niveau national, en métropole et à l'outre-mer. Et puis, je pense qu'il faut citer aussi l'action des collectivités, des services d'eau et d'assainissement qui vont, pour comprendre leurs ressources, leurs forages, voir comment les choses fonctionnent, ont développé aussi des modélisations de leur système à une échelle beaucoup plus fine et qui s'appuient là aussi sur l'ingénierie, par exemple, des délégataires, des entreprises de l'eau. Et donc, c'est l'ensemble de ces données qui permet de suivre la situation de la ressource en eau.
Concrètement, quelles sont les actions qui sont mises en place pour gérer ces épisodes de faible disponibilité de l'eau ?
Alors, avant de parler des actions qu'on prend quand on manque d'eau, je voulais juste revenir sur l'esprit dans lequel tout ça s'inscrit. Il faut avoir en mémoire que l'eau est un bien commun de la nation, c'est ce que dit la loi, et donc sa gestion équilibrée, son partage est vraiment un élément fort de nos territoires. Et donc ce que l'on souhaite en période de sécheresse, en période de pénurie d'eau, c'est vraiment favoriser les usages prioritaires. Et les usages prioritaires, c'est la santé, la salubrité, l'approvisionnement en eau des populations. Ce qui du coup amène la réglementation à mettre en œuvre des actions qui vont, en période de sécheresse, limiter des usages non prioritaires pour permettre aux usages prioritaires d'être protégés. Et donc c'est l'ensemble de ces dispositifs qui sont activés durant les sécheresses, qui ont fait l'objet là d'une réforme assez importante. On a eu un décret en Conseil des ministres tout récemment qui est venu clarifier le système, amener la réactivité, puisque l'objectif, c'est, dès qu'on observe la sécheresse, de prendre les bonnes actions préventives pour éviter de se retrouver en pénurie. Donc on vient de publier sur le site du ministère de la Transition écologique un guide qui explique les mesures que l'on prend. Si je vous les résume en quelques mots, le dispositif est conçu de la manière suivante. Nous avons divisé la France en cours d'eau. On a plus d'un millier de cours d'eau qui sont des petites zones. Et sur chacun de ces cours d'eau, on a identifié les seuils, les débits à partir desquels on rentre dans les niveaux de gravité de la sécheresse, donc de la vigilance, de l'alerte, alerte renforcée et puis la crise. Et au fur et à mesure que l'on franchit ces différents seuils, le préfet de département, va prendre des décisions de restriction d'usage qui vont concerner tous les usages, donc les particuliers, les agriculteurs, les entreprises, les collectivités, et dont le niveau de restriction est graduel en fonction de l'état de la ressource en eau. Donc c'est la mise en œuvre de ce dispositif est généralisée en métropole à l'outre-mer, et les arrêtés de restriction sont publiés sur un site internet qui s'appelle Propluvia. Donc vous pouvez aller sur Propluvia, regarder votre adresse et savoir si votre cours d'eau est en crise sécheresse ou pas. Les mesures qui sont prises, si je focalise sur les collectivités, c'est vraiment limiter les usages non essentiels. Donc, par exemple, c'est le lavage des voiries, pas essentiel l'été. L'arrosage des espaces verts. Alors on gradue l'espace vert, la pelouse, le massif floral, on restreint de manière graduée. Le remplissage des piscines. Les piscines, ça s'évapore quand on manque d'eau. On rajoute de l'eau en permanence dans les piscines et ça consomme beaucoup. Donc on a ces dispositifs qui sont définis à l'amont. C'est pas pendant la crise, en plein cœur de l'été, qu'on décide ce qu'on va faire. On a fait des plans à l'amont, durant l'hiver et ensuite c'est décliné au fur et à mesure que les seuils sont franchis par des décisions préfectorales. Alors là, je tiens à insister, le préfet ne prend pas ses décisions tout seul, il réunit l'ensemble des partenaires, les associations de collectivités, les agriculteurs, parce que les agriculteurs sont des gros consommateurs d'eau et font aussi des efforts de restriction de leur consommation en période de crise, les associations de protection de la nature, les associations de pêche notamment, qui sont très sensibles compte tenu des mortalités piscicoles qu'on observe quand les cours d'eau sont trop secs, et c'est en concertation que le préfet va prendre au fur et à mesure de l'été les décisions qui s'imposent, sachant qu'on limite les usages non essentiels. Puis après, on va se poser la question de ce qu'on fait de l'usage essentiel, donc ce qu'on fait de l'eau potable. Et là, on a le maire, bien évidemment, qui est au cœur du dispositif, qui peut lui aussi restreindre les usages de l'eau potable, amener ses concitoyens, le consommateur, à restreindre, éventuellement faire des tours d'eau. Et là, je tiens à dire, par exemple, à l'outre-mer, les tours d'eau sont finalement des choses qu'on observe encore assez fréquemment, même si nous, en métropole, on le voit beaucoup moins. Donc, on peut aller jusqu'à la mise en place de dispositifs hors sec, des gestions de crise, quand l'eau potable commence à manquer.
En matière d'accès à l'eau, l'alimentation en eau potable est un enjeu fort, hein, dont la compétence relève maintenant des EPCI. En période de sécheresse, quels sont les risques pour l'alimentation en eau potable ?
C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, on met tout en œuvre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur l'eau potable. Mais le fait est qu'on observe, et c'est vrai qu'au cours des dernières sécheresses qui étaient assez intenses lors des dernières années, on a vu, par exemple, en 2019, dans 25 départements, pour plus d'un million de Français, des tensions très fortes sur le réseau d'eau potable, qui a concerné des collectivités assez importantes, Guéret a frisé la rupture, mais c'était aussi Montbéliard, Belfort, Besançon. Donc ce risque de rupture, il n'est pas toujours lié au fait qu'on manque d'eau dans le cours d'eau, mais plutôt lié aussi à des problèmes de pollution. C'est-à-dire, comme il y a moins d'eau, pollution est plus concentrée et donc on dépasse parfois les seuils sanitaires sur certains polluants, ce qui amène à restreindre l'usage de l'eau du robinet. Donc dans ces cas-là, le préfet, la collectivité met tout en œuvre pour éviter la rupture d'eau. Et puis si la rupture d'eau a lieu, ben là on a des plans qui sont là encore définis à l'amont, qui sont les volets hors sec eau potable sur les territoires, et on organise l'approvisionnement par camion-citerne. Mais il faut savoir qu'il y a des hameaux, notamment en Corse, dans les Pyrénées, où très régulièrement il y a des coupures d'eau l'été et les maisons sont approvisionnées avec des camions-citernes. Donc bien évidemment, pour s'adapter au changement climatique, il va falloir qu'on mette tout en œuvre pour éviter de généraliser, parce qu'on ne va pas alimenter des milliers d'habitants avec des camions-citernes.
Mais ça risque de créer quelques problèmes logistiques. Comment est-ce qu'on peut sécuriser, dans ce cas, l'accès à l'eau potable ?
Alors, les collectivités sont mobilisées. Alors d'abord à l'échelle départementale, en travaillant sur des schémas directeurs d'alimentation qui vont notamment prévoir des interconnexions. Donc on va prendre l'eau sur un territoire, sur une ressource où elle est plutôt abondante et l'interconnecter, investir dans de la tuyauterie pour sécuriser la collectivité qui, elle, a une ressource un peu plus fragile. Et là, on a tout le phénomène de structuration de l'intercommunalité, parce que compétence eau est une compétence communale qui est en train d'être transférée à l'échelle intercommunale, ce qui va faciliter cette vision à une échelle territoriale un peu supérieure. Ensuite, on a vraiment la connaissance du réseau d'eau potable par la collectivité. Et là, il y a un renforcement, hein, des obligations de connaissance, de programmation, des investissements, notamment pour lutter contre les fuites, parce qu'on a aujourd'hui encore des réseaux d'eau potable qui fuient. Alors, ne pas fuir pour un réseau est extrêmement difficile, mais parfois, les taux de fuite restent encore très importants. On a plus de 40% de l'eau prélevée qui est perdue avant d'arriver dans nos villes.
Donc, c'est un peu dommage.
C'est un peu dommage. Donc, on a tout un programme d'investissement pour lutter contre les fuites. Donc, ça, c'est ce qu'entreprennent les collectivités. Et après, on a vraiment un enjeu très fort qui est celui de protéger les ressources en eau, parce qu'au plus on aura de multiples ressources en eau en bon état, notamment qualitatif, donc avec des faibles pollutions, au plus il sera facile de garantir l'approvisionnement en eau. Il y a une question derrière tout ça, on parle d'investissement, donc il y a une question de coût. Et ce qui aujourd'hui finance le service d'eau potable, c'est le prix de l'eau. Et donc, quand je disais on peut tirer des tuyaux pour faire des interconnexions, tout ça nécessite l'attention collective pour minimiser le prix.
Justement, puisqu'on parle prix, puisqu'on parle coût, est-ce qu'il y a des aides pour les collectivités qui concernent ces enjeux d'eau potable? Et puis si oui, lesquelles?
Alors oui, il y a tout un dispositif d'aide qui est basé sur les redevances mobilisées par les agences de l'eau. Donc, à titre d'exemple, les programmes d'intervention des agences de l'eau 2018-2024 qui représentent 11,3 milliards d'euros qui sont redistribués par les agences pour porter les enjeux de la politique de l'eau, flèchent 1 milliard vers ces questions d'eau potable. Alors, on a observé un besoin particulier sur cette question de la sécurisation pour lutter contre les phénomènes de sécheresse, avec par exemple des opérations qui ont eu lieu après la sécheresse de 2019, avec plus de 200 collectivités qui sont intervenues, qui ont dépensé 88 millions d'euros pour renforcer leur réseau d'eau potable, dont 33 millions étaient issus des agences de l'eau. Et dans le cadre de France Relance, pour répondre à cet enjeu et puis accélérer le processus de sécurisation, d'amélioration des réseaux, c'est 300 millions d'euros France Relance qui sont fléchés aujourd'hui vers l'eau potable, l'assainissement, pour notamment anticiper ces enjeux de changement climatique.
On voit bien, quand on vous écoute, qu'il y a un défi à relever pour les territoires sur ce sujet. Outre le dispositif d'action pour réagir aux situations de sécheresse dont vous nous avez parlé, comment, selon vous, on peut repenser nos aménagements urbains pour assurer leur résilience?
Mais je pense qu'il y a un vrai défi qui va s'adresser à nos collectivités pour concevoir la ville de demain en une ville plus résiliente, parce qu'effectivement la question de la sécheresse pour la collectivité, c'est pas que la question de la sécurisation de l'eau potable qui déjà en soi une question extrêmement importante, mais la ville, elle représente d'autres enjeux. D'abord, elle-même, elle est consommatrice d'eau. On parlait tout à l'heure du nettoyage des voiries, des terrains de foot, des espaces verts. Donc comment concilier un cadre de vie agréable pour nos concitoyens, lutter contre les espaces de chaleur, mais en même temps économiser de l'eau. Donc ça, c'est un défi. Et aujourd'hui, on a des solutions innovantes qui sont proposées par les collectivités. Alors, il y a la réutilisation des eaux urbaines traitées, qui est un mécanisme en fait qui permet un réusage, permet d'arroser les espaces verts. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui le mobilisent. En Europe, il n'y a finalement que les pays méditerranéens qui ont anticipé ce besoin qui permet d'économiser la ressource. Et donc, on a tout un travail qui est engagé aujourd'hui par les acteurs de la filière pour proposer des solutions technologiques aux collectivités en matière de réemploi. C'est important parce que demain, on se dit que c'est une source d'eau qu'on va sans doute mieux valoriser. Ensuite, on a la question de l'aménagement. Comment aménager des quartiers qui seront plus résilients? Comment aménager des quartiers qui seront perméables, qui laisseront passer l'eau, qui permettront d'améliorer le fonctionnement du cycle de l'eau? Là, on a vraiment des progrès qui ont été faits, notamment pour stocker l'eau pluviale, stocker l'eau de pluie, la réutiliser dans les espaces verts et aller économiser l'eau du robinet. C'est quand même un peu idiot d'utiliser de l'eau qu'on a traitée, qu'on a potabilisée pour aller arroser des plantes, alors qu'en parallèle, on laisse nos eaux de pluie partir dans des tuyaux très loin des villes et ce qui génère en plus des phénomènes de ruissellement et d'inondation, comme on a pu en connaître la semaine dernière sur certains de nos territoires. Donc on a vraiment besoin de développer des approches transversales de cette question de l'eau en ville. Et c'est par exemple ce qu'on promeut aujourd'hui dans le cadre d'ateliers territoriaux avec un projet qui est important aujourd'hui sur la métropole d'Aix-Marseille, qui est un territoire un peu précurseur de ces questions de sécheresse en climat méditerranéen. On connaît bien ces enjeux-là et qui propose vraiment de faire de l'eau une ressource au cœur de l'aménagement de ce territoire pour le rendre demain plus résilient. Donc ça, c'est vraiment le volet prise en compte des enjeux de l'eau dans le développement urbain. Et puis après, on a un autre volet qui est extrêmement important, qui va être celui de l'économie d'eau, de la sensibilisation. Dans le cadre des assises de l'eau qui ont été conduites en 2019 par le gouvernement, l'une des conclusions fortes de ces assises a été de dire qu'il va falloir qu'on économise, qu'on optimise nos ressources en eau, parce qu'on est face à des défis importants. Et là, les collectivités sont de vrais relais de communication, de sensibilisation, sensibiliser par exemple dans les lieux touristiques, les campings, les centres de loisirs qui sont des gros consommateurs d'eau, sensibiliser les usagers, développer du matériel économe en eau dans les logements. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, la majorité de nos concitoyens sont convaincus qu'ils auront demain un rôle à jouer pour prémunir des sécheresses et des pénuries d'eau.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque finalement, ça montre que la sensibilisation au sujet fonctionne. Et on va en parler, puisque dans cette dynamique, un club des bonnes pratiques d'économie d'eau et de tarification a d'ailleurs été impulsé par le ministère de la Transition écologique et animé par la FNCRR pour faciliter la baisse des volumes d'eau consommés par les usagers via des actions de sensibilisation, on l'a dit, mais aussi des campagnes d'équipement et une stratégie tarifaire, entre autres. Et pour cela, je vous propose d'écouter Régis Ten, il est chef du département cycle de l'eau à la FNCCR et il revient en trois questions sur les travaux menés dans ce cadre. Bonjour Régis Ten.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous pourquoi un club des bonnes pratiques d'économie d'eau.
Alors, ce club, il a été initié à la suite des assises de l'eau qui se sont déroulées en 2018, essentiellement en 2018-2019. Le constat unanime, c'est que les tensions sur les ressources en eau, en permanence ou au moins saisonnières, deviennent de plus en plus importantes avec le dérèglement climatique. Et donc, on a eu ces dernières années des recharges de nappes hivernales très insuffisantes, des épisodes de sécheresse intenses, des canicules, et qui ont frappé des régions qui jusqu'alors étaient assez épargnées. Ces situations-là, elles conduisent à ce qu'il y ait à la fois moins d'eau disponible et une demande en eau de tous les usagers qui, si l'on ne fait rien, va augmenter. C'est par exemple pour l'irrigation des cultures, mais ça se voit aussi sur les consommations domestiques. Quand il fait très chaud, tout un chacun prend plus de douches et consomme plus d'eau. C'est aussi une multiplication des piscines, etc. Donc, dans ces conditions-là, il y a des risques aussi importants sur les milieux aquatiques et la biodiversité. Une rivière qui est asséchée, même si c'est que pendant une ou deux semaines, va mettre des années à reconstituer un milieu naturel vivant. Et donc, dans ce cadre-là, les assises de l'eau ont conclu qu'il fallait que la société, dans sa globalité, apprenne des usages plus sobres de l'eau, et des avec des résultats, pas simplement des efforts, que ça concerne tout le monde, y compris les services d'eau et les services publics d'eau potable et leurs usagers. Et les assises de l'eau ont ainsi fixé un objectif de réduction des prélèvements d'eau pour les besoins d'eau potable de 10% sur 5 ans, donc maintenant d'ici 2024, et 25% sur les 15 prochaines années, donc d'ici 2034.
Qu'est-ce que vous attendez d'autre de ce club? Quels sont vos objectifs en plus de ceux que vous venez de nous annoncer?
Alors, les objectifs, prioritairement, c'est donc de promouvoir, de favoriser la mise en œuvre d'actions pour réduire les consommations d'eau des usagers des services publics. Et pour cela, l'idée, c'est de partager, de référencer des expériences, des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pour bâtir un catalogue d'actions, un catalogue de bonnes idées, de bonnes pratiques qui détaille les modalités de mise en œuvre, les conditions de réussite ou éventuellement d'échec, hein, il peut y en avoir aussi, hein, les difficultés qui ont été rencontrées, les recommandations, les résultats qui ont été obtenus, de sorte que chaque acteur, collectivité, bailleur social, syndic de copropriété, gestionnaire de camping, responsable de service espace vert d'une collectivité, puisse aller piocher là-dedans des bonnes idées et puis partager les siennes, évidemment. Et puis, le cas échéant, l'objectif est également de pouvoir faire des recommandations au pouvoir public, à l'État, pour lever certains freins ou permettre d'initier des actions qui sont aujourd'hui compliquées au niveau réglementaire. On a par exemple commencé déjà à travailler sur les enjeux de tarification, hein, et de voir s'il est possible de favoriser des tarifications saisonnières où l'eau coûte plus cher en été qu'en hiver, et donc qui peut être un outil pour inciter les usagers à être plus économes en eau aux périodes critiques.
Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous exposer, nous détailler les gisements en ville pour économiser l'eau ?
Alors, le club, il fonctionne déjà depuis presque un an et demi, et donc on a déjà recensé pas mal de bonnes idées. On a même lancé des trophées qui ont été remis au début mai à 11 lauréats, et qui ont testé différentes actions. Alors, on a des actions assez classiques que on maîtrise assez bien, enfin, de détection et de réparation rapide des fuites d'eau, évidemment, mais aussi, surtout, vis-à-vis des usagers, avec des actions visant à communiquer, informer les usagers sur le principe des économies d'eau, mettre en œuvre des incitations tarifaires, distribuer des kits hydroéconomes, hein, des mousseurs sur les robinets, des doubles chasses d'eau sur les toilettes, etc. C'est également des actions qui ciblent les services d'espace vert des collectivités, par exemple, avec la mise en œuvre de systèmes d'arrosage plus efficients, mais aussi l'utilisation de plantes qui sont moins gourmandes en eau, plus résilientes à la sécheresse. Et puis, on a un autre volet qui consiste aussi à voir dans quelle mesure il est possible d'utiliser des eaux non conventionnelles pour des usages qui ne nécessitent pas de l'eau potable. Hein, il n'y a pas besoin d'eau potable pour nettoyer des trottoirs ou pour arroser des espaces verts. Et donc là aussi, il y a des bonnes pratiques à tester ou à étendre, étant entendu quand même que la substitution n'est pas suffisante. Hein. Il y a un moment, il faudra quand même de toute façon faire des économies d'eau si on veut passer les périodes les plus critiques en matière de sécheresse et de maintien de bonne qualité et de belle continuité de nos cours d'eau.
Voilà, Régis Ten, chef du département cycle de l'eau à la FNCCR. Et nous précisons que toutes les informations relatives à ce club des bonnes pratiques sont disponibles sur le site internet de la FNCCR. Et en ce début d'été, hein, puisque nous sommes déjà le 1er juillet, rappelons également que pour s'informer sur les restrictions des usages de l'eau en cours sur votre territoire, vous pouvez consulter le site internet Propluvia. On va remercier Amélie pour ses premières explications et vous allez bien rester avec nous puisque nos auditeurs ont quelques questions pour vous. C'est avec Stéphane et c'est tout de suite.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Stéphane, on a quelques questions d'auditeurs.
Oui, merci Johanna. Première question de Michel. Concernant les décisions de restriction graduelle prises par arrêté préfectoral, hein, qui... en fonction des aléas et de la gravité de la sécheresse, est-ce qu'il y a des cas de dérogation possibles ? Alors, je pense à une cuisante défaite qui est le qu'est l'euro par rapport au stade de foot, notamment ?
Alors, c'est effectivement une question que peuvent se poser tous les territoires. On manque d'eau, le préfet vient de prendre une décision, il vient d'arrêter, d'interdire l'arrosage des stades de foot. Mais voilà, nous, on accueille aujourd'hui une compétition internationale exceptionnelle. Il n'existait pas jusqu'à présent de dispositif qui permettait de ne pas appliquer l'ensemble des restrictions. On a prévu que ça puisse être possible. Alors bien évidemment, c'est extrêmement exceptionnel. Donc je ne sais pas si la compétition sportive est le bon exemple pour répondre à ce besoin, mais on est bien dans un dispositif qui doit être gradué, mais qui doit répondre aux besoins du territoire. Donc s'il y a un besoin extrêmement primordial, qui relève de la sécurité, de la salubrité publique, on voit bien qu'il faut pouvoir maintenir l'usage de l'eau. Et donc ça, c'est vraiment à la disposition du préfet de décider en fonction des enjeux, des situations, des besoins, ce qui doit être fait. Mais donc, je ne sais pas si permettre à nos jeunes générations de s'entraîner au football pour permettre à la France de gagner dans 15 ans la Coupe d'Europe sera suffisant. Mais c'est effectivement des questions que peuvent se poser nos collectivités. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment en parler avec le préfet.
Merci. Deuxième question de Clarisse concernant la thématique de la sécurisation de l'accès à l'eau potable. Vous êtes mieux au courant que nous. Il y a un projet de loi climat et résilience qui est discuté actuellement au Sénat. Je crois que c'est la deuxième et dernière lecture pour une publication à la rentrée. Quelles sont ces dispositions en lien avec le sujet de la sécheresse ?
Oui, alors effectivement, dans le cadre du projet de loi résilience et climat, la question de l'eau a été évoquée. C'est un des éléments de la résilience de nos territoires demain, avec deux dispositions qui font écho à cette question de la sécheresse. La première, c'est l'identification de masses d'eau souterraines pour les besoins en eau du futur. Donc l'idée, c'est d'aller identifier des ressources qui sont peut-être pas exploitées aujourd'hui, mais dont on se dit que leur préservation, leur bon état écologique, la limitation des pollutions est vraiment essentielle, parce que demain, ça nous fera des réserves pour alimenter les populations les autres ressources en eau, notamment celles qui sont au-dessus, l'eau superficielle, les nappes de premier niveau ne sont plus accessibles en quantité. Donc ça, c'est vraiment une projection pour les générations futures, en allant identifier dans les SDAG, dans les schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux, qui sont vraiment les outils de planification de la politique de l'eau à l'échelle des grands bassins versants, donc à l'échelle du Rhône, de la Seine, de la Garonne, d'identifier ces nappes d'eau souterraines, si, pour les protéger. L'autre disposition, je l'ai rapidement évoquée tout à l'heure, c'est vraiment de faciliter les schémas de directeurs pour les réseaux à la main des collectivités territoriales, pour notamment faciliter la préparation des investissements. On a besoin de réinvestir dans les réseaux et les usines d'eau potable. Et donc pour ça, il faut que les collectivités puissent se projeter un petit peu pour ne pas laisser à demain les investissements qui seraient nécessaires dès à présent.
Stéphane, on prend une dernière question.
D'accord. José a la parole pour vous poser la question suivante, qui est très courte dans sa formulation. Quelles sont les modalités de contrôle concernant les usages agricoles ?
Alors ça, c'est effectivement une question qu'on a souvent sur les territoires, c'est-à-dire le territoire est en crise, il y a de la communication qui invite nos concitoyens à ne pas arroser leur pelouse, à ne pas remplir leur piscine, et à côté de ça, ils observent un usage agricole, des tours qui irrigue. Alors, d'abord, il faut savoir qu'en fonction de l'origine de l'eau, les restrictions ne s'appliquent pas. Donc, quand on a fait des forages souterrains profonds, on peut utiliser l'eau si la rivière est en crise. Il n'y a pas de lien entre les deux. Mais il y a bien évidemment des mesures qui sont prises aussi sur les activités agricoles avec en crise des arrêts de l'irrigation, ce qui d'ailleurs crée des difficultés pour les acteurs économiques agricoles. Il y a donc des contrôles qui sont effectués par les agents de la police de l'environnement qui vont concerner tous les secteurs, donc qui vont contrôler le respect de ces restrictions d'usage avec des campagnes de communication qui sont faites d'abord pour que chacun ait l'information, et puis ensuite il y a des contrôles pédagogiques, des contrôles qui vont sanctionner puisqu'on est attentif à ce que l'ensemble des mesures soient mises en œuvre. Donc ça fait partie de l'activité de nos services durant l'été.
Merci Amélie Coantic, sous-directrice en charge de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques à la direction de l'eau et de la biodiversité. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et de nous avoir éclairé sur ce sujet de la sécheresse. Je pense que nos auditeurs vont penser à vous tout l'été quand on sera un petit peu en manque d'eau, et à vos bons conseils. Merci à vous Stéphane Olivier, chargé d'animation territoriale à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. On était ravis d'évoquer ce sujet estival pour l'un des derniers numéros de la saison du mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Une émission que vous pouvez désormais retrouver en podcast sur le site de Radio Territoria avec toutes les émissions de la saison et même de la saison d'avant. C'est magnifique, c'est les joies d'Internet et du podcast. En attendant, restez bien en direct à l'écoute de Radio Territoria. Tout de suite, retour au Parc des Expositions de Paris Villepinte avec Christophe Bordet pour la suite du Salon des maires d'Île-de-France. Je vous dis à très bientôt sur Radio Territoria.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, à réécouter et à télécharger sur Radio Territoria et toutes les plateformes d'écoute habituelles.